1, 2, 3. Session théologique, le 4 novembre 1994 à Rimont, par le père Martin, troisième cours.
Alors, je voudrais regarder un tout petit peu la parole de Dieu avec vous. Vous savez que le Concile Vatican II, dans la Constitution sur la Révélation, a repris l'expression disant que l'Écriture, c'est l'âme de la théologie. Donc, une théologie n'est vivante que dans son retour constant à l'Écriture. La théologie, c'est l'œuvre du croyant qui applique son intelligence à rentrer dans avec plus de pénétration dans la parole de Dieu. Et le théologien n'a pas d'autre but que d'expliciter toute la richesse et la profondeur de la révélation et de l'écriture. Il y a un lien, si vous voulez, au fond, le théologien, il est serviteur de cette révélation, serviteur pour ses frères, pour que tous les croyants se nourrissent davantage de la parole de Dieu. Alors, je voudrais regarder maintenant avec vous. Vous voyez, on pourrait passer des mois et des mois à faire donc ce qui pourrait s'appeler une théologie biblique, essayant de montrer, en particulier dans l'Ancien Testament, comment la parole de Dieu introduit le thème de la rédemption. Vous voyez, ce matin, on a un peu regardé l'encyclique selon un angle de théologie de l'économie divine. Quelle est l'intelligence que je peux avoir de la manière dont Dieu réalise son dessein de salut dans l'histoire? Il y a un autre regard en théologie qui consiste à essayer d'ordonner la manière dont progressivement Dieu, dans l'Écriture, se révèle et révèle son dessein. Les deux sont très liés, évidemment, mais ce n'est pas exactement la même chose. Je voudrais commencer par la Genèse et par les 11 premiers chapitres de la Genèse. Vous savez que ces 11 premiers chapitres forment un tout. Le père Philippe a l'habitude de dire que c'est une maquette de l'économie divine, c'est-à-dire que l'on trouve là toutes les données sur la manière dont Dieu agit avec l'humanité. Évidemment, ce n'est explicite qu'à la lumière de la révélation parfaite dans le Christ à la croix. Mais avec cette lumière de ce qui s'est passé à la croix, si je relis la Genèse, j'ai là comme une espèce de préfiguration, d'un fourre-tout où tout est préfiguré et que je peux éclairer donc par ce que je sais de la manière dont Dieu a agi dans le Christ. Alors on va insister donc sur ces 11 premiers chapitres. Ensuite, le chapitre 12, c'est Abraham, donc c'est l'histoire d'Israël qui commence, l'élection d'un homme, d'un peuple, à partir d'Abraham. C'est autre chose. Les 11 premiers chapitres concernent toute l'humanité. Ils sont universels. Et donc, par là, ils nous concernent. Ces récits de la Genèse commencent par la création. Alors, vous me direz, ici, on fait la rédemption. Pourquoi on parle de la création? Parce que tout le temps, la Bible fait le parallèle entre création et rédemption. Vous n'avez qu'à vous souvenir du début du prologue de Saint Jean. L'œuvre ultime dans la Révélation commence par les mêmes mots que le début de la Genèse dans son récit de la création. Au commencement. Donc, je dois regarder la création pour entrer dans une intelligence du mystère de la rédemption. Et dans ce qu'on appelle le second Isaïe, c'est-à-dire les chapitres 40 à 55 d'Isaïe, vous avez toujours la libération des déportés, des juifs qui ont été déportés à Babylone, qui est manifestée comme une nouvelle création. Alors, vous savez que donc, il y a deux récits de la création. Le premier récit, donc la création en six jours, qui culmine le sixième jour par la création de l'homme et de la femme à l'image de Dieu. Donc chapitre 1 de la Genèse, verset 26, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, sur toutes les bêtes sauvages, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, mâle et femelle il les créa. Verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, fructifiez et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, etc. Donc, vous avez... On vous a dit, pratiquement chaque jour, vous l'avez... Dès le verset 4 du chapitre 1, Dieu vit que la lumière était bonne. Puis ensuite, vous avez le refrain, par exemple au verset 10, Dieu vit que cela était bon. Ensuite, on aboutit à la création de l'homme et de la femme qui sont bénis, il y a une bénédiction. Ensuite, il y a un commandement de fructifier, multipliez-vous, donc une fécondité qui est réclamé par Dieu qui regarde toute la terre, l'homme doit se répandre sur toute la terre. Par sa fécondité, il couvre l'ensemble. Et puis, il domine la terre, les animaux. Donc, domination de l'univers matériel. Il domine aussi les plantes dont il se nourrit. À ce stade-là, l'homme est herbivore. Donc, ce qui est très clair, c'est que cette création est centrée sur l'homme. Et il y a la conclusion au verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici que cela était très bon. Valde bonum. Une fois qu'on est à la finalité, cette création de l'homme et de la femme, Dieu exprime sa très grande satisfaction. Donc, cette création centrée sur l'homme, c'est quelque chose de très bon, qui est réalisé par un Dieu personnel. Un Dieu personnel qu'il réalise personnellement en parlant. Donc, cette œuvre qui est très bonne conduit l'être humain à une louange. Il est admiratif devant celui qui est responsable de cette création, qui est très bonne. Et donc, ça, c'est la louange qu'on retrouve chez le psalmiste, hein, par exemple dans le psaume 18. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Et tout s'achève par le repos du septième jour. Début du chapitre 2. Ainsi furent achevés le ciel et la terre et toute leur armée. Dieu acheva le septième jour le travail qu'il avait fait et il chôma le septième jour après tout le travail qu'il avait fait. Alors ça c'est très beau parce que vous voyez ça montre qu'au-delà du travail de la création, il y a un repos. L'homme est face à Dieu et j'ai envie de dire Dieu est face à l'homme et on a envie de dire ils peuvent jouir l'un de l'autre. Vous vous souvenez de ce passage de la sagesse où il est dit que la sagesse trouve ses délices avec les enfants des hommes. Donc, c'est, ça, il me semble que c'est très fort de montrer que cette création s'achève par le repos du septième jour. Il y a là comme une image de cette vocation de l'homme à l'intimité contemplative avec Dieu. Au-delà du labeur, il est fait pour être face à Dieu dans un contact intime et aimant. Dans un contact de louange par rapport à tout ce que Dieu a réalisé dans la création et tout ce qu'il lui a donné. Donc vous voyez que cette création, elle nous est montrée clairement comme une initiative de Dieu. Dieu donne et c'est lui qui prend cette initiative. Il donne quoi ? Il donne à la création d'exister, il donne au vivant d'être vivant. Et ça s'achève par ce repos du septième jour où il y a quelque chose peut-être de l'intimité surnaturelle avec Dieu qui nous est signifié. Rappelez-vous ce que saint Thomas dit, saint Thomas d'Aquin montre que dès la création, l'homme, dès sa création, l'homme est créé dans la grâce. Cette grâce qui lui permet d'entrer dans cette communion intime avec Dieu. Donc il y a une communication par Dieu de l'être, de la vie, qui va jusqu'à la vie surnaturelle. Voilà le point de départ, hein, qui est positif, moins qu'on puisse dire. Ça commence pas, vous voyez, ça commence pas. De manière rapiécée. Ce don de Dieu est montré dans ce premier récit comme une mise en ordre. Alors ça, c'est le début du récit. La terre était un chaos. verset 2. Dieu impose un ordre à un chaos par sa toute-puissance. Et cet aspect-là, de mise en ordre, elle sera signifiée dans les psaumes, en particulier aussi dans le livre de Job, comme une espèce de combat contre des monstres marins. Il y a le Léviathan qui est mis à mort. Alors vous voyez, c'est intéressant parce que s'il y a le parallèle entre création et rédemption, cette mise en ordre dans la création, ce n'est peut-être pas pour rien qu'elle nous est signifiée par un effet de la toute-puissance de Dieu qui seul peut mettre sa marque sur le chaos primitif. Et comme un combat, Dieu qui écrase des monstres. Hein? Il y a une lutte entre Jésus et les puissances des ténèbres, entre les chrétiens et les puissances des ténèbres. Et il y a comme une annonce très 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 fine, hein, que la recréation sera aussi un combat. On peut lire, toujours en éclairant, hein, par la lumière de la croix et du Christ, ce récit. D'une autre manière, vous avez l'ordre que met Dieu dans la création, c'est un ordre qui sépare. Dieu sépare. Il sépare quoi ? C'est le début de l'activité créatrice. Il sépare la lumière des ténèbres, verset 4. Il sépare les eaux d'au-dessous du firmament d'avec les eaux qui sont au-dessus du firmament, verset 7. Il sépare la terre de la mer, au-dessous du firmament, il fait encore une séparation. Bien sûr, quand on pense à la lumière et aux ténèbres, on pense tout de suite au prologue de Saint Jean. Et puis, dans cette séparation des eaux, on ne peut pas ne pas penser à quelque chose qui sera le grand signe de la délivrance des Hébreux à la sortie d'Égypte, Dieu qui fend la mer rouge en deux. Et comme il y a tout un langage symbolique qui est un peu difficile pour nous, parce qu'on n'est pas très habitué à le prendre en compte au niveau le plus profond. Pour nous, le langage symbolique, c'est un peu le langage des contes, des fables et des autres choses. Et on a beaucoup de peine de comprendre que c'est un langage par lequel Dieu passe pour nous conduire à lui, c'est-à-dire qu'il utilise dans l'Écriture. Donc vous avez toujours, vous voyez, ce parallèle qu'on va essayer d'explorer ensemble, entre un don fondamental, qui est le don de l'être, la création, et un don nouveau, de surabondance, qui est une recréation, qui fait fond sur le don premier de la création, et qui implique quelque chose entre-temps, une action humaine désordonnée. Cet ordre que Dieu met, hein, qui est si bien symbolisé par ce premier récit où il y a les jours qui se succèdent, premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, montre bien comment la création est une œuvre de sagesse. L'ordre, saint Thomas glose sur Aristote en disant que celui qui met un ordre, c'est le sage. Cette création est œuvre de la toute-puissance de Dieu, cette toute-puissance qui jugule les puissances du chaos. Elle est aussi l'œuvre de sa sagesse. Ce que nous disent les Proverbes, hein, le livre des Proverbes. Le Seigneur Yahvé, par la sagesse, a fondé la terre. Et vous avez tout au, livre 8, au chapitre 8 du livre des Proverbes, toute cette présentation de la sagesse qui est aux côtés de Dieu qui crée. Hein, je vous faisais allusion à ça. Quand je parlais de la sagesse qui trouve ses délices dans les enfants des hommes. C'est la sagesse qui est aux côtés de Dieu qui crée. Alors cette sagesse, pour nous, elle a un visage, c'est le Christ crucifié. Et ça, c'est ce que nous dit saint Paul. Voyez, où est-ce que je remonte ? Je ne remonte plus comme chrétien à la sagesse du Créateur, mais à la sagesse du crucifié. Voilà ce qui met un ordre. Voilà ce qui me permet de tout juger. Hein? 1 Corinthiens, le premier chapitre de la première épître aux Corinthiens. Donc, si la création est l'œuvre de la sagesse de Dieu au point de départ, la plus grande œuvre de la sagesse de Dieu, c'est la recréation, c'est la croix. Et c'est pour ça que Paul dira, pour nous, la sagesse de Dieu, c'est le Christ crucifié. Vous voyez ? On fait fond sur la création, elle est toujours là, mais elle est comme dépassée pour nous par la croix, qui nous révèle plus profondément ce qu'est Dieu. Et c'est pour ça que le Christ est sagesse. La sagesse, hein, pour les Grecs, c'est la saisie, c'est ce qui permet à l'homme de regarder, de contempler ce qui est le plus absolu, la cause première. Vous êtes sage si vous arrivez aisément et avec joie à cette contemplation. Or, ce qui pour nous est la sagesse, c'est le Christ crucifié. Donc, je vais le plus haut. Hein, souvenez-vous de ce que disait le pape dans Redemptor Hominis qu'on voyait ce matin. Je vais le plus haut et le plus loin dans la contemplation, dans la mesure où je m'approprie le Christ crucifié. Dans la mesure où ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. Et par là, je dépasse tout ce qui pourrait être de l'ordre d'une sagesse acquise, d'une sagesse philosophique, où je contemple l'ordre de la création pour remonter jusqu'à Dieu. Ça, c'est le premier récit, hein, qu'on dit sacerdotal. Bon, bref. Et puis, vous savez bien, il y a un second récit de la création. Il y a ce petit doublé qui, comme le père Philippe l'explique bien, n'est pas du tout, évidemment, superflu. Dieu nous dit quelque chose par ce doublé qu'il ne peut pas nous dire par un seul récit. Dans ce second récit de la création, donc à partir du verset 4 du chapitre 2 de la Genèse, il y a, vous le savez bien, cette action de Dieu qui agit comme un potier. Le Seigneur Dieu façonna l'homme. Poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines une haleine de vie et l'homme devint un être vivant. Verset 7. Là encore, parallèle entre cet homme tiré du limon, façonné par les gestes de Dieu, les gestes du potier, et celui que saint Paul, hein, c'est vraiment la révélation, appelle le nouvel Adam. Et ça, la tradition patristique, en particulier Irénée de Lyon, que nous aimons, et Tertullien. Tertullien, c'est le mélange d'un charismatique et de Monseigneur Lefebvre. C'est-à-dire qu'il est à la fois charismatique et schismatique. Tertullien est fini schismatique. Mais enfin, il a écrit de belles choses avant d'être schismatique, et aussi après d'ailleurs. Irénée, qui lui est resté orthodoxe, voit dans cette création de l'homme, du premier Adam, la grande prophétie de l'incarnation. Et alors, voyez, ça c'est très fort. Ça montre que Dieu, lorsqu'il crée, il porte intentionnellement toute l'économie du salut. Vous voyez, dans le regard de Dieu, c'est bien clair, tout est unifié. Et alors, c'est pour ça que Tertullien dit que quand Dieu façonne Adam, le premier Adam, il pense au nouvel Adam, au Christ à venir. Parole de Tertullien qui est d'ailleurs reprise dans le Concile Vatican II. Dans ce premier récit où donc l'homme est créé comme une poterie, il y a la femme qui est créée dans un nouveau geste, Dieu qui enlève une côte d'Adam. Donc vous avez là l'apparition donc de celle qui est l'épouse, la femme, avec une union tout à fait radicale à la fin du chapitre 2. Verset 24, une fois que Ève est créée, le rédacteur dit, c'est pourquoi l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme et ils deviennent une seule chair. Donc il y a une union, une unité entre les deux. Donc vous voyez, autant le premier récit s'achevait par le septième jour, le repos. qui semble symboliser l'aspect contemplatif de la vocation de l'homme, autant ce second récit s'achève par le fait que enfin l'homme trouve une compagne, quelqu'un qui lui est adapté. Et donc c'est toute une autre dimension de l'être humain qui est mise en lumière dans ce second récit, c'est l'amour réciproque dans la communion avec, entre deux êtres humains. Et ça, c'est l'autre aspect de la vocation de l'homme. Il est appelé à l'amour personnel. Alors vous voyez, il y a bien un ordre, hein, c'est très fin. Vous avez le premier récit, qu'est-ce qu'il met en lumière ? Le rapport entre Dieu et l'homme. Il montre bien que l'homme est homme et femme, mais il y a quelque chose, ça culmine dans ce repos où l'homme est face à Dieu. Le second récit, bien sûr, il y a toujours le rapport entre Dieu et l'homme. L'homme est créé par Dieu. Et Dieu se penche sur l'homme pour essayer que l'homme ne s'ennuie pas trop. Mais il culmine dans le rapport entre deux êtres humains, dans l'amour. Et le premier récit vient avant le second. Alors vous savez bien que saint Paul va faire une relecture de cette création de l'homme et de la femme qui s'unissent en une seule chair pour l'appliquer au Christ et à l'Église. Vous voyez, ce n'est pas moi qui invente hein, les parallèles entre la Genèse et l'œuvre du Christ. Ils sont déjà présents dans l'Écriture tout le temps. Donc Adam, Ève, c'est comparé donc, dans l'Épître aux Éphésiens, hein, la fameuse épître qu'on lisait au mariage avant la réforme liturgique. On la lit parfois encore maintenant, mais maintenant c'est plus imposé. Christ, Église. Cela veut dire qu'il y a un rapport sponsal, comme dirait le Saint-Père, entre le Christ et l'Église. Le Christ, comme le dit Saint-Paul, il est le sauveur du corps. Et bien ce sauveur, il est le seul à réaliser vraiment l'union dans une seule chair. L'union qui est dans une seule chair entre Adam et Ève au niveau naturel, vous comprenez bien que ce n'est pas une union parfaite. L'union n'est parfaite qu'au niveau surnaturel du Christ et de l'Église. C'est le parfait, hein, là. Ça, c'est un parfait. Pourquoi ? Parce qu'il y a un seul corps, le corps mystique. Dites là, quoi qu'il fasse, il y aura toujours deux corps. Et alors évidemment, entre les deux, vous avez tout l'Ancien Testament qui montre que entre Dieu, entre Yahvé et le peuple d'Israël, Juda, Israël, etc., ben voilà, il y a un rapport sponsal. Le peuple d'Israël est une épouse infidèle. Évidemment, pour la foi chrétienne, il y a un autre jeu de rapport, le Christ comme nouvel Adam, uni dans l'acte de la croix, dans l'acte de la rédemption avec la nouvelle Ève, figure de l'Église, et Église à titre éminent. J'ai plus de craie. C'est mon doigt qui y passe. Hein. Merci. C'est Marie. Donc, vous voyez, et les deux sont unis, le nouvel Adam et la nouvelle Ève, particulièrement dans l'acte de la rédemption, c'est, le Père vous en reparlera sûrement, c'est tout le mystère de la compassion, où Marie coopère dans une unité de charité à la grande œuvre de son Fils sur la croix. Donc vous voyez que dans le lien entre Adam et Ève, si ce que dit Tertullien est vrai, est déjà visé par Dieu quelque chose de bien plus profond, qui est le lien de Marie et du Christ dans l'acte de la rédemption. La rédemption, elle est présente dès ses premiers moments de la Bible. Évidemment, hein, ce n'est pas évident à inventer quand on ne lit que le début. Souvenez-vous, chose très simple, que Jésus appelle Marie femme. Hein, on dit qu'est-ce qui lui arrive, c'est sa mère. Et ça commence aux noces de Cana. Noces de Cana, on ne se préoccupe absolument pas des époux. pour lesquels il y a des noces, on ne parle que du Christ et de Marie. Ensuite, vous avez le récit de la chute. On pourrait dire bien d'autres choses, hein, mais je me concentre sur ce qui peut être relu par rapport à la rédemption. Alors, vous voyez que la construction, elle est, il faut bien l'observer. Vous avez d'abord le don divin, aux deux sens du mot divin. Le don qui provient de Dieu et qui, ultimement, est Dieu lui-même. Parce que, par la grâce, c'est Dieu lui-même qui vient habiter le cœur de l'homme. Voilà le début. Une création qui culmine jusqu'à la vie surnaturelle communiquée à l'homme et qui permet à l'homme d'être dans cette intimité aimante avec Dieu. Après ce don, c'est le mystère, parce que c'est vraiment un mystère, c'est que ce don divin est refusé par l'homme. Donc c'est le mystère du péché, qui est toujours un refus. Alors le premier péché, ce premier refus, pour l'humanité, puisqu'il y a en fait quelqu'un déjà qui a péché, qui sera symbolisé par le serpent, c'est celui d'Adam et Ève, celui qu'on appelle le péché originel. Le péché premier pour l'humanité, qui va déclencher non seulement un changement de statut pour l'humanité, il va y avoir une déchéance, qu'on disait ce matin sur le fait que l'humanité, la nature humaine est dans un état blessé, et qui va aussi enchaîner toute une série d'autres péchés. Qu'un tue Abel, etc. Vous avez dans ce péché originel, vous voyez quelque chose que Ricoeur a bien mis en lumière, comme un nouveau commencement. Le premier commencement absolu, c'est la création. Mais là-dedans se glisse un commencement qui est dans l'ordre du mal et du péché. Mais ce qui est important, c'est qu'il se glisse. C'est-à-dire que le mal est moins originaire que le bien. Cette création qui est très bonne préexiste et elle est présupposée pour toutes les déviations et les déviances. Vous voyez, il y a quand même quelque chose, déjà, d'une bonne nouvelle, c'est que le fond n'est pas mauvais. Ce que expliquera saint Thomas en théologien scientifique, vous ne pouvez pas avoir un mal absolu. Le mal s'inscrit toujours sur un bien, parce qu'il faut au moins que celui qui fait le mal existe. Même le démon, il y a quelque chose de bon en lui en tant qu'il existe. Et ce qui est très fort, c'est que dans ce récit de la chute, tout de suite, Dieu n'abandonne pas l'homme. Ce que je disais déjà ce matin, nous, quand on nous attaque, quand on nous blesse, quand on grogne contre nous, on referme les écoutilles et on replie bagage. On plie bagage. Qu'est-ce que fait la première réaction, la première exclamation de Dieu, une fois que Adam et Ève sont tombés dans le trou, au chapitre 3, verset 9, Dieu, le Seigneur Dieu, Yahvé Dieu, appela l'homme et lui dit « Où es-tu ?» Et c'est magnifique. Est-ce que, vous voyez, il suffit de réfléchir 3 secondes sur notre vécu pour se rendre compte que ce n'est pas du tout la manière dont nous on réagit. On ne va pas pourchasser celui qui nous a blessés. Et vous voyez, cette interpellation de Dieu, elle vaut pour tout homme dans le péché. Dieu poursuit l'homme dans le péché en lui disant « Où es-tu ? Parce que tu n'es pas à ta place, tu devrais être dans l'intimité avec moi. » Cette intimité qui est symbolisée magnifiquement dans le récit, Dieu se promène dans le jardin à la brise du jour. Et il ne rencontre plus l'homme. Alors, arrive le fameux, ce qu'on a appelé le protévangile. Vous voyez, la toute première bonne nouvelle, si vous voulez. Dieu, face au serpent qui a induit Adam et Ève à tomber, face à Adam et Ève qui se sont précipités dans l'invitation du serpent, multiplie les sentences de condamnation. Il condamne le serpent à marcher sur la poussière, il condamne la femme, elle enfantera dans la souffrance, etc. Il condamne l'homme. Le jardin ne fait plus que des ronces et des épines. Et au milieu, il y a quelque chose de très particulier. Donc, chapitre 3, verset 15. Le Seigneur parle au serpent qu'il vient de condamner et très sévèrement. C'est la condamnation la plus sévère pour le serpent. C'est normal parce que c'est lui qui est l'instigateur de la chute. Alors, Dieu dit au serpent, je mettrai de l'inimitié entre toi et la femme. Vous voyez, la femme. Ce thème de la femme qui revient. Il faut repérer les thèmes qui résonnent sans cesse. Je mettrai de l'inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te visera la tête, et toi tu la viseras au talon. Vous voyez, donc, il y a une inimitié entre le serpent et la femme. Pensez à l'Apocalypse, chapitre 12, évidemment, où il nous est remontré ce signe, ce grand signe de la femme, avec un dragon, qui est aussi le serpent, l'adversaire. Correspondance entre la Genèse et l'Apocalypse, Alpha et Oméga. Cette inimitié entre le serpent et la femme se prolonge jusque dans leur descendance réciproque. Et ce qui est plus fort, c'est que la descendance de la femme est annoncée comme victorieuse puisqu'elle vise à la tête le serpent. Viser à la tête le serpent, c'est la meilleure manière de le faire périr. Alors, et ça c'est très fin, alors que la descendance du serpent, le serpent plus exactement, et toi, tu la viseras au talon. Donc cette descendance de la femme sera atteinte par le serpent. La victoire sera du côté de la femme. Et vous voyez, c'est très fort. C'est du côté de la femme, donc de celle qui vient après l'homme, celle qui est comme relative à l'homme. Sous-entendu, elle ne le fera qu'appuyer sur Dieu. Alors, il y a tout un problème de traduction qui est la Septante, c'est-à-dire la version grecque faite par les Juifs d'Alexandrie de l'Ancien Testament, a mis ce texte au masculin, c'est-à-dire que ça devient dans la Septante, au lieu de « celle-ci, ta descendance, te visera la tête »,« lui te visera la tête ». Donc on a appliqué ce « lui » au Messie. Donc le texte est devenu encore plus fortement messianique. Le Messie, celui qui est attendu par l'espérance d'Israël comme le libérateur d'Israël. Ça, c'est la version de la Septante. La Vulgate a opté dans un autre sens. Elle l'a mis au féminin. C'est-à-dire que... Alors ça, c'est moins marquant pour nous, Français, parce que descendance est déjà au féminin. Mais ça devient, au lieu de... La descendance te visera la tête, elle, une femme, t'écrasera la tête. Alors évidemment, c'est dans la Vulgate, donc toute la tradition patristique latine y a vu une grande préfiguration de la Vierge Marie. Statue de la Vierge Marie qui a le pied sur le dragon, sur le serpent. Alors voyez, s'il y a ce protévangile, qui est la toute première lueur qui annonce la rédemption opérée par le Christ avec la coopération de Marie. On peut peut-être comprendre ce verset 22 qui est un peu étrange du chapitre 3. Le Seigneur Dieu dit, Yahvé Dieu dit, voici que l'homme est comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Vous vous souvenez que la tentation a porté là-dessus. Le serpent a dit, voilà... Qu'est-ce qu'il a dit exactement d'ailleurs ? Dieu sait, verset 5, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux se dessilleront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Donc il les pousse à manger d'eux-mêmes, à prendre la main, à mettre la main sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est pourtant défendu par Dieu. Alors le Seigneur dit : voici que l'homme est comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Ben oui, ils ont fait l'expérience pratique du mal, donc ils savent le bien et le mal. Et maintenant, il ne faudrait pas qu'il avance la main et qu'ils prennent aussi de l'arbre de vie, qu'ils en mangent et vivent à jamais. Alors vous voyez, ça c'est très fort, parce que ça montre bien que ce qu'il s'agit de respecter pour l'homme, comme créature face à son créateur, face à Dieu, c'est de respecter que Dieu a l'initiative dans le don. La source absolue, c'est Dieu. Et si l'être humain devient une source à son tour, ça ne peut être qu'en Dieu. Le fameux texte en Saint Jean, « De son ventre couleront des fleuves d'eau vive. » Ça vaut peut-être pour le croyant, mais avant tout pour le Christ. Je ne peux être une source qu'en m'inscrivant et en dépendant vitalement de cette source qui est Dieu et pour moi le Christ. Et là, quand Dieu dit « Maintenant, il ne faudrait pas qu'il avance la main et qu'il prenne aussi de l'arbre de vie. Vous voyez, il ne s'agit pas tant pour Dieu d'empêcher l'homme d'avoir accès à la vie, c'est ça qu'il veut lui donner. Souvenez-vous de ce que dit Jésus, je suis venu pour que l'on ait la vie en surabondance. Mais l'homme doit respecter que c'est Dieu qui la lui donne, et non pas lui qui s'en empare. Et c'est là où on voit toute la place du Christ. Le Christ, hein, c'est ce que montre l'épître aux Philippiens, il n'a pas estimé comme une usurpation d'être égal à Dieu. Il n'a pas arraché l'égalité avec Dieu. Or, c'est ça, ce que nous montre la Genèse comme, vous voyez, comme première lumière sur le péché, c'est l'homme qui arrache des choses, qui veut arracher des choses, qu'il jalouse parce qu'il a l'impression, et ça, il est poussé à ça par le serpent, que Dieu veut les garder pour lui, en l'empêchant de l'avoir. Alors que Dieu veut lui donner. Mais ça exige que l'homme le reçoive comme un don. C'est-à-dire qu'il respecte l'inégalité foncière entre son créateur et lui. C'est-à-dire qu'il respecte la vérité de son rapport à Dieu. Donc vous voyez, c'est là où on voit que le fond de tout péché, c'est l'orgueil. L'orgueil luciférien, l'orgueil du serpent, qui trouve sa réplique, et c'est pour ça, et c'est là-dessus qu'attaque d'abord le serpent, dans l'orgueil d'Adam et Ève, qui veulent être autonomes, si vous voulez. L'orgueilleux ne veut pas dépendre, il refuse la dépendance. Et c'est ça le problème, c'est que cette créature spirituelle, elle est comme créature dépendante, et comme esprit, elle est autonome. Et donc, avec son intelligence, elle peut toujours se replier sur elle-même et ne vouloir exalter que son autonomie et ne plus vivre de sa dépendance de première créature. Alors, c'est pour ça que du point de vue de la recréation, de la rééducation du chrétien, l'adoration est fondamentale. Parce que c'est l'adoration qui me remet dans cette dimension première qui est celle de la création. Je suis une petite créature totalement dépendante de mon créateur. Et le premier péché, c'est ce refus qui se manifeste dans la transgression de l'ordre divin, c'est-à-dire que je refuse que ça soit Dieu qui détermine par lui-même ce qui est bien et ce qui est mal, qu'on fait à la dernière encyclique. C'est l'essence de tout péché, en un sens. Mêler les cartes et appeler bien ce qui est mal et vice-versa. Et puis là, dans cette petite exclamation, ça serait que l'homme s'empare par lui-même, de manière désordonnée, dira saint Thomas, de ce que Dieu veut lui donner. Vous voyez, c'est très fort ça, parce que, au fond, ce qui est notre vocation, la vie divine, elle est utilisée par le démon comme ressort de la tentation. Vous serez comme des dieux. Vous voyez, donc, matériellement, c'est la même chose. Il s'agit de la vie divine. Mais dans un cas, elle est reçue avec reconnaissance, action de grâce, Eucharistie. Dans un autre cas, on se l'approprie par jalousie. Alors ça ne va pas. Et Dieu ne veut pas que l'homme fasse cela, il l'expédie loin du paradis terrestre. Vous voyez, alors évidemment, refuser la vie qui est donnée et qui ne peut être que donnée, qui est avant tout la vie surnaturelle, qui est la vie surnaturelle, cette vie d'amitié avec Dieu, ça aboutit à la mort si vous refusez la vie. Donc c'est la mort spirituelle. C'est ce péché fait entrer la mort, et d'abord la mort spirituelle, dont la mort physique n'est que le signe. Et c'est très beau parce que Irénée explique dans son traité contre les hérésies que, en fait, la mort physique est une miséricorde de Dieu. C'est peut-être paradoxal, mais ça empêche l'homme de faire trop de bêtises. Le mal n'est pas sans fin. Vous voyez, tout le temps, au milieu de ces condamnations, c'est la miséricorde de Dieu qui agit. Caïn et Abel. On a remarqué à l'ordre qu'il y avait dans les récits de la création. D'abord le rapport à Dieu, ensuite le rapport entre les hommes. Le péché brise ces deux rapports dans le même ordre. Le péché d'Adam et Ève, cet orgueil qui fait que l'homme se dresse contre l'ordre voulu par Dieu. Et tout de suite la conséquence, la brisure dans les relations fraternelles. Caïn égorge son frère par jalousie. Alors, comme on regarde le Christ rédempteur, ce que je veux regarder surtout, c'est Abel, cette figure d'Abel. Abel qui ne dit pas un mot, qui est totalement innocent et qui est aimé de Dieu. Son sacrifice est agréé par Dieu. Dieu porte ses regards vers Abel et vers son oblation. Alors évidemment, il est trop clair que Abel, selon ces trois dimensions de victime innocente, d'aimé de Dieu et de silencieux, c'est une préfiguration du Christ. Le Fils bien-aimé, l'agneau sans reproche et sans tache, comme dit saint Pierre. Et puis celui qui, souvenez-vous de la passion, qui se tait. Pilate, il ne comprend pas d'ailleurs qu'il se tait. Tu te tais devant moi qui ai le pouvoir de te sauver. Alors vous voyez, avec Abel, on a Abel, cette victime innocente, c'est la première figure de ce qu'on appellera le juste persécuté, qui est récurrent dans toute l'Écriture. Dans les psaumes, pensez au psaume 22, celui qu'on a chanté à midi. Dans le début du livre de la Sagesse, la mort du juste qui est persécuté pour qu'on voit. Et puis tout le quatrième poème du serviteur, dans Isaïe 53. L'Épître aux Hébreux fait le parallèle entre Jésus et Abel. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, dit que le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Pourquoi il parle mieux ? Bien parce que c'est un sang qui, au lieu d'être le chef d'accusation contre Caïn, ce que dit le texte là, de la Genèse, Genèse 4, verset 10, « Yahvé dit, qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie vers moi du sol. » Ce sang crie vengeance, il appelle à la vengeance. Et Dieu va être obligé de protéger Caïn. Mais il y a un sang qui est aussi le sang d'une victime innocente, sans reproche et sans tâche, mais qui, au lieu de crier vengeance, est là pour intercéder pour nous, qui nous apporte le pardon. Alors ce qui est très beau, c'est qu'on sent qu'il y a une espèce de sensibilité très particulière de Dieu par rapport au sang versé par le juste. La voix du sang de ton frère crie vers moi du sol. Et il y aura la sagesse de Dieu à inventer la croix où le sang de Jésus est comme le signe efficace de notre salut. Nous sommes vus à travers ce sang qui crie plus fort que celui d'Abel et qui nous réconcilie avec Dieu. Mais toujours dans un meurtre qui est un péché, vous voyez. C'est ça qui est curieux. C'est que Abel, il montre, c'est un meurtre, c'est un péché. Mais c'est le meurtre d'un juste. Et son sang crie vers Dieu. Vous voyez, comme ça résonne avec ce que l'on sait de l'acte de la croix et de sa conséquence pour la réconciliation entre Dieu et les hommes. Vous voyez, si le sang d'Adam a une telle portée sur Dieu, d'Abel, je veux dire, c'est d'abord parce que c'est le sang du Christ qui est capital dans le rapport entre Dieu et les hommes. Alors vous voyez que tout ce récit de Caïn et d'Abel, c'est comme une parabole de la croix. Abel est victime de la jalousie de Caïn, le Christ est victime de la jalousie des grands prêtres. Alors la différence, c'est qu'Abel, il offre un sacrifice, c'est pas lui-même qui l'offre. Tandis qu'à la croix, victime et prêtre ne font qu'un. Donc il y a quelque chose de très particulier. Ensuite, vous avez tout le récit du déluge, chapitre 6 de la Genèse. Je ponctue très vite. Chapitre 6, verset 5. Le Seigneur vit que la malice de l'homme était grande sur la terre et que son cœur ne formait que pensées mauvaises à longueur de journée. Donc, toute la terre, au lieu d'être envahie par les hommes, comme elle devait l'être, elle est envahie non seulement par les hommes, mais aussi par l'iniquité et la malice. Parce que l'homme ne pense qu'à faire le mal. Alors il y a une grande décision divine qui est assez radicale. Il veut exterminer l'homme. Verset 7, le Seigneur dit, Yahvé dit, je vais effacer de dessus la surface du sol les hommes que j'ai créés. Il y a un anthropomorphisme très fort, hein, verset 6. Le Seigneur se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il s'affligea dans son cœur. Vous voyez, comme pour nous faire comprendre par cet anthropomorphisme, parce que c'est évident que Dieu ne change pas d'avis, la gravité du péché. La gravité du péché va jusqu'à remettre en cause l'œuvre de la création. Et puis, vous avez ces anthropomorphismes qui montrent des réactions de Dieu. Dieu se repent, il s'afflige dans son cœur. Comme pour montrer que le péché, vous voyez, c'est pas... Dieu n'est pas simplement un comptable qui voit que le péché se multiplie. Il est touché dans son cœur. Il y a comme une vulnérabilité infinie de Dieu au péché, vulnérabilité infinie parce qu'il est amour. C'est l'amour qui vous rend vulnérable. Dieu est infiniment amour, il est infiniment vulnérable. Alors, c'est la décision du déluge, qui est comme le contraire de la création. À la création, Dieu a séparé eau, terre. Déluge, les eaux recouvrent tout. Et ce déluge est un châtiment en ce sens que c'est une mort prématurée pour tout le monde. L'homme doit mourir. Mais là, maintenant, il va mourir, qu'il ait 0 ans, 4 ans, 10 ans, 20 ans ou 70 ans. Et pour tout le monde. Vous voyez ? Le texte dit au verset 13, Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est venue devant moi, car la terre est remplie de violence à cause d'eux. Voici que je vais les détruire. Vous voyez, dans cette destruction qui est liée à la destruction de ce qui est tout, de ce qui est chair, comment ne pas regarder la force de ce qui se passera à la croix, où le Verbe qui est devenu chair va être broyé. Et il va être broyé. Comme l'a dit saint Paul, il est mort pour tous, donc tous sont morts. L'universalité du déluge prélude à l'universalité du sacrifice du Christ. Dans le Christ, tous les hommes sont morts. C'est une affirmation de saint Paul qui est très très forte, ça. Et dont le déluge, et vous voyez, est longtemps à l'avance, une espèce de préfiguration très curieuse. Alors dans ce déluge, il y en a un qui trouve grâce, Noé. Verset 8, Noé trouva grâce aux yeux de Yahvé. Voici l'histoire de Noé. Noé était un homme juste. Jésus-Christ le juste, dit saint Jean, sa première épître. Noé était un homme juste, parfait. Noé marchait avec Dieu. Alors, Noé est donc appelé par Dieu à construire l'arche. Cette arche, où il y a une petite porte sur le côté. Comment ? Si, verset 16. Tu feras à l'arche un toit et tu l'achèveras à une coudée au-dessus. Tu mettras l'entrée de l'arche sur son côté. Et puis vous savez, donc, tout le parallèle, l'arche, le corps du Christ, piqué sur le côté. Mais surtout l'arche, évidemment, ça sera qui rassemble tout le monde, hein, les grosses bêtes et les petites bêtes, ça sera la grande figure de l'Église pour les pères de l'Église. L'Église qui rassemble tous ceux qui sont sauvés. Et alors là, c'est très fin, parce qu'on saisit un peu l'intelligence du symbolisme divin. Il faut faire référence, c'est saint Pierre dans la première épître qui fait le parallèle entre le fait qu'il y a peu de gens, hein, vous savez. Saint Pierre dit, il y en a peu qui ont été sauvés à l'arche, 8 personnes, parce qu'il y a beaucoup d'animaux, il n'y a pas beaucoup d'humains. Et saint Pierre dit, c'est une figure de ce qui se passe maintenant, vous qui êtes sauvés par le baptême. Et il dit, l'arche a sauvé par l'eau. Vous voyez comme c'est intelligent, parce que l'eau, c'est l'instrument du châtiment. Et c'est en même temps ce qui permet de sauver, puisque c'est elle qui porte l'arche. Donc le châtiment est porteur de salut. Et il faut avoir une intelligence. Il faut que la sagesse de Dieu pour non seulement penser à ça, mais en plus le réaliser concrètement, comme dit saint Thomas. On pense ce châtiment salvateur, on pense tout de suite à la parole d'Isaïe, donc Isaïe 53, le quatrième poème du serviteur, que reprend saint Pierre, c'est par sa meurtrissure que nous sommes guéris. Cet homme est broyé et c'est ça qui nous sauve. De la même manière, l'eau du déluge est l'eau qui sauve. Alors, avec la création, avec la décrue, puisque le déluge n'a qu'un temps, vous avez comme une nouvelle création. Vous avez un nouveau commencement, une recréation. À nouveau, l'eau et la terre se séparent, la terre devient sèche. Et à nouveau, Dieu dit aux animaux, multipliez-vous, fructifiez, soyez féconds, exactement comme le premier récit de la création. Donc vous voyez, vous avez une espèce de triptyque. Création, Genèse 1 et 2. Déluge et recréation, Genèse 6, 9. Donc vous avez trois personnages qui sont très différents et qui en même temps sont unis quelque part. Adam, Noé, et puis en tant qu'il y a une recréation, c'est une annonce de la rédemption du Christ. Et une annonce, on verra ça ce soir, qui va très loin. Dans les éléments de ce qui est donné dans ce mythe de Noé, il y a des éléments très frappants par rapport à ce qui sera l'acte du Christ rédempteur.